Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient dans l'émission « Et si on en parlait ?», votre émission d'information et de débat. Aujourd'hui, nous avons décidé d'aborder la question des élections législatives à travers l'accord électoral historique, inédit. C'est nos invités qui répondront sur la nouvelle Union populaire, écologique et sociale, la NUPES. Pour aborder ce sujet dans la première partie de l'émission, j'ai le plaisir de recevoir Benjamin Morel. Bonjour Benjamin.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence en droit public à l'Université Paris 2, également membre du comité éditorial de la Revue politique et parlementaire, qui est notre partenaire régulier sur cette émission. La première question que j'ai envie de vous poser, Benjamin, c'est est-ce que de votre point de vue, cet accord était prévisible ? Certains parlent d'un accord historique. Quand on se rappelle du contexte de l'élection présidentielle qui était, disons-le, marqué plutôt par la division, la dispersion des candidats et même une certaine tension entre les différents candidats. Et finalement, en moins de 15 jours, il y a cet accord général entre la France insoumise, les écologistes, Europe Écologie, le Parti communiste et le Parti socialiste.
Cet accord est assez peu étonnant en réalité, pas pour des raisons de logiciel idéologique, même si pour le coup on y reviendra peut-être, mais parce qu'en réalité il y a eu deux facteurs qui ont été assez marquants lors des élections présidentielles. Le premier facteur, c'est que une grande partie de l'électorat de la gauche traditionnelle, social-démocrate, n'a eu aucun problème à voter pour la France insoumise. Or jusqu'à présent, l'un des paris des grands appareils LVPS, c'était que l'électorat ne se tournerait pas vers Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il ne voudrait pas voter pour Jean-Luc Mélenchon. Ça n'a pas été le cas. Le deuxième élément, c'est que le PS et Europe Écologie Les Verts sont sortis singulièrement affaiblis de cette élection. Pas seulement parce qu'ils ont fait un très mauvais score, mais également parce que financièrement, eh bien, cette situation, cette présidentielle va peser sur eux pendant encore de nombreuses années, donc ils ne peuvent pas se permettre une bérésina aux législatives, étant donné que le financement de la vie politique, le financement des partis, est en grande partie lié à leurs résultats aux législatives et ensuite aux députés qu'ils peuvent faire élire. Donc pour toutes ces raisons-là, au lendemain du deuxième tour, il apparaissait, si ce n'est évident, en tout cas probable, qu'un modus vivendi soit trouvé.
Alors, mon autre question, c'est est-ce que vous pensez que finalement c'est aussi le produit, cet accord, d'une stratégie très efficace de la France insoumise qui, entre les deux tours de l'élection présidentielle, sort une affiche, une déclaration de Jean-Luc Mélenchon qui est candidat à Matignon, qui dit que les élections législatives seront le troisième tour de la présidentielle et qui dit aussi aux autres partis que maintenant il faut se rassembler pour faire barrage à une majorité présidentielle qui s'annonce normalement au lendemain d'une élection présidentielle remportée par Emmanuel Macron.
Alors c'était en effet une stratégie extrêmement efficace. Il faut bien comprendre ce qui se passe dans une législative, on va dire, lambda post-quinquennat. On dit souvent l'électorat veut donner une majorité au président de la République. En fait, c'est faux. Ce qui se passe après une présidentielle traditionnelle, c'est que l'électorat de la majorité est content, il a gagné, et donc il se mobilise aux législatives. Alors que l'électorat de l'opposition, lui, est groggy, il est déprimé parce qu'il a perdu, et donc il se démobilise. Et donc cet effet de participation différentielle, c'est que, en règle générale, vous avez des majorités pléthoriques pour le président de la République parce que, il y a un avantage dans un camp. La vraie réussite de Jean-Luc Mélenchon, c'est d'avoir fait passer ce qui a quand même été une défaite, puisqu'il n'est pas arrivé au second tour, comme étant une victoire et transformer ce sentiment de victoire en sentiment d'espoir. Et donc mobiliser sa base électorale. Et donc là, on a quelque chose d'assez nouveau, ce qui pose problème à l'actuelle majorité, parce que du coup, la participation différentielle ne devrait pas forcément jouer en sa faveur, même s'il y a d'autres atouts qu'elle a dans sa manche. Et de l'autre côté, ce qui rend extrêmement difficile d'autres stratégies qui auraient pu être celles des autres partis de gauche, notamment pour le Parti socialiste, ce que font actuellement les Républicains, mais tout parier sur l'ancrage local. Considérer que cette élection allait passer un petit peu sous les radars, que l'électorat allait être mobilisé parce que considérer qu'Emmanuel Macron a de toute façon une majorité. Et donc, plutôt que d'avoir une grande politisation au niveau national qui déclencherait un effet de vote utile sur le meilleur candidat, celui qui serait mieux placé à gauche, faire le pari de l'ancrage, de l'homme de terrain, etc. Ça marche quand vous avez une forte abstention. ça marche quand vous avez une élection qui est très dépolitisée. Quand vous avez une élection qui est très très politisée et dans laquelle la participation est un peu moins ridicule qu'aux législatives précédentes, ça ne marche plus. Donc vous êtes contraint à l'alliance.
Alors, ce qui est étonnant comme élément de contexte suite à cette élection présidentielle, c'est qu'habituellement, le lendemain du deuxième tour de l'élection présidentielle, tout tourne autour du président élu ou réélu, et on parle beaucoup de ce qui se passe dans la majorité. Et là, en réalité, on a l'impression que l'actualité a tourné autour de Jean-Luc Mélenchon, de la France insoumise, et finalement de l'accouchement, un peu dans la douleur, mais pas tant que ça, de cette nouvelle union populaire. Est-ce que c'est pas aussi un risque de la part de la majorité présidentielle d'avoir laissé comme ça le terrain être occupé depuis pratiquement le lendemain de l'élection présidentielle? Et dans les sondages, d'ailleurs, il y a des sondeurs qui disent que ceux qui sont le plus intéressés par la campagne des élections législatives, ce sont les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, devant ceux de la majorité présidentielle.
Bien sûr, ce qui devrait conduire a priori à une surmobilisation de cet électorat. Alors, il faut bien comprendre que dans une élection, vous avez une abstention relativement importante. Celui qui emporte l'élection, ce n'est pas celui qui a le plus large électorat. C'est celui qui arrive le mieux à mobiliser son électorat pour être, même avec beaucoup d'abstention, eh bien circonstanciellement majoritaire. Donc, en effet, c'est plutôt un très très bon coup de Jean-Luc Mélenchon. Il a réussi avec la NUP, avec ce slogan assez génial du point de vue de la communication politique, « Élisez-moi Premier ministre ». Ça n'a aucun sens institutionnellement, mais du point de vue de la communication politique, c'est très très fort. Donc, vous avez un Jean-Luc Mélenchon qui a bien joué ses cartes, et deux autres acteurs qui les ont moins bien joués. D'un côté, Marine Le Pen, qui a pris des vacances, c'est pas du tout la chose à faire. Et donc là, vous avez une carte extrêmement mal jouée. Et de l'autre, Emmanuel Macron, qui est pris dans un jeu de contraintes différent. Parce qu'il ne peut pas vraiment faire exister cette campagne des législatives sans Premier ministre. Or, pour le coup, il avait la volonté de ménager une période de transition. Parce qu'il faut bien comprendre que c'est la première fois depuis le début du quinquennat qu'on a un tel temps de latence entre d'un côté les présidentielles et de l'autre les législatives. La mobilisation des mobilisations que j'évoquais tout à l'heure, elle s'amenuise au fur et à mesure que les élections législatives s'éloignent des présidentielles. Donc le schéma rêvé pour un président de la République normalement, c'est d'avoir rapidement des élections législatives derrière. Là, ça n'a pas été le cas. Donc pour éviter d'avoir un effet de souffle qui s'estompe au bout d'un mois, Emmanuel Macron a tenté de retarder cette campagne des législatives en nommant son gouvernement plus tard, en faisant succéder un certain nombre de séquences vides, etc., l'investiture. Donc tout ça lui va peut-être lui permettre, avec l'annonce du nouveau gouvernement, de reprendre la main, mais en attendant, ça a impliqué d'accepter de la perdre au moins pendant quelques semaines.
Mais du coup, puisqu'on est là pour se dire les choses franchement, est-ce que ça veut dire que la stratégie de repolitisation de ces élections législatives, dont vous avez expliqué pourquoi, en général, elles étaient une formalité pour le président de la République, qui obtenait assez facilement une majorité en raison de la mobilisation, démobilisation des électorats. Est-ce qu'il y a une possibilité, une opportunité, bien que la majorité soit courte, voire même qu'il n'y ait pas de majorité du tout? Je parle même pas de l'option de la cohabitation, parce qu'elle paraît quand même... aujourd'hui, à ce stade, assez improbable, mais en même temps, quand on vous écoute, on se pose la question.
C'est pas impossible. Pour l'instant, la cohabitation est improbable. Le fait que l'AREM n'ait pas de majorité absolue l'est beaucoup moins, en revanche. En réalité, il y a la question de la mobilisation des mobilisations de l'électorat. Il y a un autre facteur à prendre en compte pour comprendre pourquoi La République En Marche est en position de force. Quand vous avez une tripolarisation de la vie politique, comme on la connaît actuellement, vous avez un avantage structurel à la formation centriste. Dans une élection à deux tours, si jamais la reine se retrouve face à la droite, elle peut compter sur des reports de voix importants de la gauche. Et si elle se retrouve face à la gauche, elle peut compter sur des reports importants de la droite. Il y a donc a priori, on devra avoir beaucoup de second tour avec la République En Marche, qui par ailleurs a un électorat très diffus sur l'ensemble du territoire et donc est assez bien réparti. Et la plupart de ces second tours devraient être acquis par la République En Marche, qui explique que dans certaines enquêtes, vous pouvez avoir une coalition des gauches qui dépasse jusqu'à 10 points les listes ensemble, mais en même temps, au bout du compte, c'est quand même la République En Marche qui gagne. C'est injuste, mais c'est la logique du mode de scrutin. Alors, il y a deux possibilités pour que malgré tout que ça n'arrive pas. Le premier point, ce serait qu'on ait une surmobilisation de l'électorat. Et si on a une mobilisation importante de l'électorat, qui sera induite par une forte politisation de l'élection, ça peut signifier une multiplication des triangulaires. Or, la triangulaire, bon, vous avez trois candidats au second tour, annule cet effet
c'est polarisation.
Cet avantage, voilà, ça annule cet avantage à La République En Marche, au Parti Centriste. Et la deuxième possibilité, c'est qu'on ait un très mauvais report des voix de droite, notamment des voix RN, sur les listes.
Les candidats En Marche, notamment. On peut même imaginer au deuxième tour certaines circonscriptions où il y a un tout sauf l'AREM.
Voilà, exactement. C'est-à-dire que il va y avoir un vote probablement anti-Macron d'une partie de cet électorat. La question, c'est est-ce que ce vote anti-Macron sera plus ou moins fort que le vote anti-Mélenchon? Quand vous écoutez aujourd'hui le discours de la majorité, alors qu'il y a encore quelques semaines, Richard Ferrand disait qu'il partageait les mêmes valeurs que Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon est... apparaît comme étant la personne la plus infréquentable de France pour la majorité. Et donc, vous avez une stratégie du castor renversé, si vous voulez. Il faut faire barrage à Jean-Luc Mélenchon. Et donc, il faut arriver à mobiliser l'électorat de droite derrière les candidats à l'arène. Est-ce que ça marchera? Pour l'instant, c'est très, très difficile de le dire. Les sondages que vous voyez, qui n'ont pas fait pas grand sens en termes de projection, en termes de sièges, ces sondages-là partent des élections présidentielles ou d'enquêtes d'opinion faites ad hoc uniquement sur le premier tour de manière générale, sans avoir une vision par circonscription, et ne prennent pas non plus du tout en compte les potentiels reports de voix au second tour. Donc ce faisant, pour l'instant, bien malin est celui qui pourra dire ce que ça donnera au second tour des législatives.
Et pour autant, effectivement, comme vous l'avez dit, l'adversaire principal d'Emmanuel Macron, qui a tenu des propos hier sur la gauche communautariste, lui personnellement, donc critiquant finalement le rassemblement autour de la France insoumise, et quand on écoute les principaux leaders, on a des changements de pied assez étonnants, puisque par exemple Richard Ferrand disait entre les tours de la présidentielle qu'il y avait des valeurs communes entre la France insoumise et la REM, et aujourd'hui on a un discours plutôt, comme vous l'avez indiqué, de rediabolisation de Jean-Luc Mélenchon et haro sur les candidats de la France insoumise, y compris on va chercher le CV, la condamnation des uns ou des autres, alors même d'ailleurs que du côté de l'AREM, il n'y a pas que des candidatures innocentes et pures.
Donc peut-être d'ailleurs celle de Richard Ferrand. Mais voilà, si vous voulez, en effet, tout à l'heure c'est ce que j'appelais le castor inversé, c'est-à-dire que il s'agirait de faire barrage pour l'électorat de droite à Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que ça peut marcher? C'est possible, mais pour l'instant, on voit que quand même, on a un petit recul sur les élections de 2017, même si encore une fois, ces élections seront très particulières. Mais en 2017, on voit que la stratégie anti-RN de la majorité en appelant au vote de l'électorat de gauche a bien marché. De l'autre côté, ça marchait beaucoup moins dans les circos. Donc, on peut penser que ce sera probablement moins efficace qu'escompté. Après, en effet, ils auraient tort de se priver de cette stratégie. C'est leur stratégie. C'est une stratégie qui leur permet structurellement, avec aujourd'hui 24-25% de l'électorat, d'espérer obtenir 75% des députés. Donc, si ça fonctionne bien, c'est en effet tout bénéfice pour la majorité. Mais c'est une stratégie qui, du coup, implique un certain nombre de changements de pied.
Alors, dernière question. Si d'aventure, pour les raisons que vous avez indiquées, on avait des résultats qui étaient différents de ceux qui sont attendus, c'est-à-dire une large majorité pour le président de la République. Est-ce qu'on pourrait parler d'une reparlementarisation des élections législatives? Et est-ce que c'est peut-être aussi, certains électeurs se profiteront peut-être de cette occasion pour effectivement faire plus un vote de conviction qu'un vote utile? Et est-ce qu'on pourrait pas avoir effectivement un Parlement un peu différent de ce qu'on a connu sous la Ve République, qui donnerait finalement à cette institution qui a été beaucoup affaiblie, et surtout avec l'alignement du quinquennat sur les élections législatives, est-ce que c'est pas effectivement une conséquence inattendue de qui pourrait advenir?
Alors ça pourrait advenir, en effet, c'est-à-dire que il faut bien comprendre qu'en droit, le président de la République a assez peu de pouvoir. Il a des pouvoirs d'exception, mais en fait, sur la gestion quotidienne de la politique de la nation, il a guère plus de pouvoir que son homologue allemand, que son homologue italien. Donc, si jamais vous n'avez pas de majorité, ça devient très très compliqué. Le président ne peut pas imposer ses desiderata. Donc, il faut construire des coalitions qui sont soit des coalitions temporaires, texte par texte, soit des coalitions plus structurelles, ce qui impliquerait pour ensemble, eh bien, peut-être de tendre la main à LR, ou de tendre la main à ELV, ou de tendre la main au PS. Donc à ce moment-là, en effet, on a un jeu de combinaison, et une combinaison d'alliances qui ressemble beaucoup plus à ce que l'on connaît en Allemagne, en Italie, avec des partenaires de coalition qu'il faut ménager parce que vous ne pouvez pas leur imposer vos desiderata. Donc c'est loin, loin d'être impossible, et d'autant que à présent, l'idée d'un gouvernement minoritaire, comme ça a pu être le cas de 88 à 93, hein, le gouvernement Rocard n'avait pas de majorité à l'Assemblée. Mais à l'époque, on avait le 49 alinéa 3 qui permettait de gérer, de juguler la Chambre. Or, depuis 2008, on a limité le nombre de 49 alinéa 3. Vous ne pouvez l'utiliser qu'une fois par session ordinaire, hors budget, etc. Donc, ce qui fait que la plupart des textes, pour être adoptés, devraient quand même avoir une vraie majorité positive pour les soutenir. Donc, en effet, on aurait un régime qui serait beaucoup plus parlementaire, en fait, qui ressemblerait beaucoup plus au régime politique de nos voisins européens.
Oui, puisque la France est quand même, faut le rappeler, un pays différent par rapport à ses grands voisins.
Alors, c'était en effet le seul pays déjà qui a un tel pouvoir présidentiel, hein, même dans son système politique. En réalité, le président de la République française a plus de pouvoir, par exemple, que son homologue américain, qui fait face à de vrais contre-pouvoirs. Et tous nos voisins sont des régimes parlementaires, dont la Chambre est par ailleurs à chaque fois élue à la proportionnelle, sauf en Grande-Bretagne. Donc c'est vrai que le régime français est un peu une curiosité pour nos voisins.
Ben merci beaucoup Benjamin Morel pour avoir répondu à nos questions sur cet accord historique, mais peut-être qu'il faut attendre le résultat des élections législatives pour pouvoir le qualifier de cette manière-là, la nouvelle Union populaire écologique et sociale. En tout cas, vous avez ouvert des pistes de réflexion pour nous et pour nos auditeurs. Eh bien, je rappelle que vous êtes maître de conférence en droit public à l'Université Paris 2, également membre du comité éditorial de la revue politique et parlementaire, et je vous remercie d'avoir répondu à nos questions dans la première partie de l'émission.
Merci à vous.
À très bientôt, Benjamin. Merci.
Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications, une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient, dans la deuxième partie de l'émission « Et si on en parlait ?». Votre émission de débat et d'information, et comme dans la première partie de l'émission, nous allons poursuivre sur l'accord électoral pour les élections législatives de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Est-ce un accord historique ? Était-ce prévisible, attendu ? La question, je vais la poser à notre second invité, Gaël Broustier, bonjour.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes politologue, également chroniqueur dans plusieurs hebdomadaires ou médias. Voilà, la première question que j'ai envie de vous poser, Gaël, c'est effectivement, est-ce qu'on peut parler d'un accord historique ou est-ce que les mots sont un petit peu excessifs, galvaudés ?
Alors, tout d'abord, merci de m'avoir invité. Je pense qu'en effet, il y a une dimension à la fois historique, et cette dimension est à relativiser, comme toujours. C'est-à-dire que on rappelle beaucoup l'histoire du Front populaire, le 3 mai, ça a été beaucoup utilisé par tous les protagonistes de cette affaire. Et puis, c'est la première fois, il faut dire les choses, à la fois que cette union se fait alors que, on va dire, les groupes sociaux que représente cette alliance hétérogène, sinon hétéroclite, ne sont pas en ascension, comme c'est-à-dire pendant les années 70 avec l'Union de la gauche, même la gauche plurielle sous Lionel Jospin. Mais au contraire, on a à la fois une régression, un retrait, une dénationalisation du vote de gauche, qui perdure, qui continue, et en même temps une diminution globale, on va dire, une rétractation du vote de gauche. Alors c'est vrai que elle se fait sous l'égide de la gauche radicale menée par Jean-Luc Mélenchon, qui n'avait pas eu ce type de souplesse tactique ou stratégique voici 5 ans. Cette fois-ci, ils ont été beaucoup plus, je dirais, dans le mouvement, capté beaucoup plus une ère du temps d'une partie de la société française. Et de ce point de vue-là, oui, il y a un fait historique qui est que c'est la seule formation de gauche radicale qui soit parvenue à faire sous son égide une union gauche jusqu'à la social-démocratie en Europe pour l'instant.
Alors, vous avez effectivement rappelé le caractère quand même historique, au sens où je crois qu'on a rarement vu sous la Ve République un accord où il n'y a plus qu'un seul candidat dans la plupart des circonscriptions.
Il y a eu des accords
de désistement sur le second tour, parfois sur le premier tour, mais à cette échelle-là, jamais. Maintenant, je vais vous interroger sur ce que ça peut vouloir dire sur par rapport aux différentes composantes. Le plus étonnant, pour être honnête, c'est de retrouver le Parti Socialiste dans cette alliance, puisque alors même que les élections présidentielles n'étaient pas achevées, entre les deux tours, vous aviez à la fois Jean-Luc Mélenchon qui disait qu'il souhaitait être Premier ministre, et en même temps, certains de ses lieutenants qui disaient « Oui, mais ce ne sera pas avec le Parti Socialiste ». Qu'est-ce qui explique ce changement de cap?
Bon, il y a le scrutin uninominal majoritaire à deux tours qui fait que soit on est laminé avec un taux de participation qui est toujours très inférieur à celui de la présidentielle, taux qui était particulièrement bas. Donc les calculs ont été vite faits. Tomber au-dessous de 12,5% des inscrits pour beaucoup de sortants socialistes était une perspective tout à fait envisageable. Donc il y a cet intérêt électoral immédiat qui n'est pas contradictoire, on va dire, avec une vision de plus long terme. Moi, ce qui m'a le plus étonné, c'est la capacité, pour avoir connu comme d'autres le Parti Socialiste, c'est le fait que l'Europe avait une valeur d'idéologie de substitution et écraser toute autre forme d'intérêt ou forme de discussion pendant des années au sein du Parti Socialiste. Or, le cas de la désobéissance, etc., a été critiqué, il y a eu de grosses réserves des négociateurs socialistes, mais tout de même, même Martine Aubry a quand même dit qu'il fallait valider cet accord, ce qui est quand même assez historique dans l'histoire d'une social-démocratie d'Europe occidentale. C'est la mise au second plan de l'impératif d'unification européenne, second plan par rapport en fait aux impératifs de l'accord programmatique. C'est assez nouveau. Ça me semble la chose à la fois la plus fragile et potentiellement la chose à trancher progressivement si la gauche française veut retrouver une identité nouvelle et se reformer selon d'autres choses que selon ce que racontait François Hollande pendant 5 ans, d'une certaine manière.
Alors, on pourrait en dire autant d'Europe Écologie Les Verts.
Oui, c'est vrai, Europe Écologie Les Verts, mais je pense qu'il y a une espèce de yalta mentale sur Europe Écologie Les Verts, où ils ont constaté qu'il fallait absolument survivre par le mode de financement actuel, mais que leur champ de déploiement était beaucoup plus local, très local, ou très européen, que national. Je pense que ça, il a fallu, dans la tête de Bayou, jongler avec l'impératif l'impératif de l'union, parce que c'est de l'union que naît la trésorerie d'un parti politique, dans ce contexte qu'on connaît des élections législatives, et d'autre part que les buts de guerre qu'engrangeait Europe Écologie ont toujours été soit des agglomérations, comme on voit aujourd'hui Lyon, etc., Strasbourg, etc., soit européens, où ils ont un groupe qui fonctionne remarquablement, extrêmement bien, de l'avis de tous leurs collègues, surtout les meetings du Parlement européen. C'est un groupe écologiste est quand même un des plus dynamiques et un des plus en pointe aujourd'hui à Bruxelles.
Alors, on sait que les élections législatives, c'est souvent le produit de la mobilisation de la majorité présidentielle et de la démobilisation des oppositions qui génèrent souvent une large majorité pour le président de la République. Cette fois-ci, on a assisté quand même à une repolitisation assez étonnante de la séquence, puisque Jean-Luc Mélenchon a annoncé entre les deux tours de l'élection présidentielle qu'il souhaitait avoir une majorité parlementaire pour rentrer à Matignon et devenir Premier ministre. Est-ce que cette stratégie a une chance d'aboutir, au moins en réduisant la majorité présidentielle à quelque chose de moins pléthorique, ou bien est-ce qu'il va se heurter au mur de cet enchaînement présidentiel, législatif, qui souvent produit une large majorité pour le président de la République?
Alors, à travers, si on peut être critique sur la manière dont il a établi le débat actuel, c'est-à-dire de dire voter Élisée moi Premier ministre. Qui est,
troisième tour, il a parlé.
Troisième tour, qui ne correspondait pas non plus aux institutions. On peut quand même reconnaître qu'il a imposé l'idée, à part la dynamique de l'union de différentes formations, il a imposé l'idée auprès d'un peuple de gauche politisé qu'il fallait se remobiliser. Donc c'est une première étape. Et d'autre part, il fait face quasi exclusivement à la majorité présidentielle. Et donc il a réussi à déplacer le clivage médiatique au moins sur la gauche de l'échiquier politique, ce qui n'était absolument pas gagné. De là à dire qu'il peut l'emporter, bon, les projections en termes de circonscription, même dans les meilleurs cas, sont quand même très très loin de permettre cette hypothèse d'entrée à Matignon. D'autre part, faut pas oublier que les précédentes cohabitations, si ça allait de soi, la nomination de Lionel Jospin à la tête de Jacques Chirac, en revanche, en 1993 et en 1986, la nomination ni d'Edouard Balladur en 93 ni de Jacques Chirac en 86 n'allait véritablement de soi au début à l'Élysée. Donc il y aura toujours un choix qui sera à l'Élysée et qui sera un choix éminemment tactique, puisque c'est quand même là qu'il y a le droit de dissolution. Donc, pas d'emballement non plus sur ce type de... Il y a l'arithmétique, et ensuite il y a encore les atouts politiques qui demeurent à l'Élysée, qui est quand même constitutionnellement et politiquement aujourd'hui la force centrale du pays.
Alors, on a quand même vécu quelque chose d'assez étonnant dans la séquence politique, puisque normalement, au lendemain d'une élection présidentielle, c'est le président, son premier ministre, sa majorité qui occupe un peu l'espace médiatique. Et là, on a l'impression qu'on a beaucoup parlé de ce qui se passait à gauche, de l'accord NUPES. Et même Marine Le Pen s'est émue, il y a quelques jours, d'avoir un peu disparu. Elle était aussi partie en vacances, c'est vrai, mais enfin, elle avait un peu disparu, comme si de la tripartition de l'élection présidentielle, on était repassé à une sorte de polarisation droite-gauche, droite LREM face à la gauche NUPES. C'est quand même étonnant, cette séquence politique. C'est assez inédit sous la Ve République.
Oui, c'est la repolitisation qu'on a vue d'une certaine manière. Il faut se souvenir de l'entre-deux-tours 2007, où Laurent Fabius avait soulevé le problème de la TVA sociale, et où il y avait une repolitisation, alors que ça devait être une simple
formalité.
Formalité pour le président Sarkozy, ils avaient perdu 50 ou 70 députés, et le PS en avait sauvé 50 ou 70 sur cette affaire de TVA sociale. Donc il y a toujours une politisation, mais il faut savoir faire. C'est vrai que tout le monde ne sait pas faire, et Mélenchon, pour une fois, a saisi vraiment le mouvement. C'est-à-dire que ce n'est pas sa culture politique de saisir le mouvement, par son trotskisme lambertiste entière, et c'est pas leur truc. Et là, il l'a vraiment saisi. Et il n'a pas gommé la tripartition qui existe vraiment dans le pays. Par contre, il a la ligne de front la plus nourrie, effectivement, médiatiquement pour l'instant, c'est entre lui et le président. Par le fait que la ligne aussi est mouvante, c'est-à-dire que au cœur d'une des composantes de la NUPES, le Parti Socialiste, voire de deux, vous avez des gens qui sont, on va dire, un peu tangents sur leur... voilà, donc il y a une... Il y a la perspective aussi de mouvements parlementaires post-législatifs qui ne sont pas nuls. Simplement, c'est vrai qu'il a réactivé, sinon un espoir, du moins un motif de fierté politique d'un peuple de gauche qui est quand même hors jeu depuis très longtemps.
Et qui paraissait hors jeu pour encore très longtemps.
Oui,
faut le dire.
Et qui peut retourner dans le hors jeu d'ailleurs. Mais... pour l'instant, c'est plutôt une opération réussie, même si il y a des accroches et des amicroches, etc., etc.
Alors, donc, est-ce que dans cette mise en scène de cette repolitisation des élections législatives, il n'y a pas aussi finalement le rappel en creux que, le président de la République a beaucoup de pouvoir par rapport aux pays voisins, mais c'est quand même le Premier ministre, dans la Constitution de la Ve République, qui a besoin d'avoir une majorité au Parlement pour faire passer les lois, les grandes décisions programmatiques issues des élections, et que donc, si il n'avait pas cette majorité pléthorique, on serait dans une situation politique différente, avec un retour du Parlement et un système qui serait assez proche de ce qui se passe dans la plupart des grands pays voisins, où le Parlement a un rôle central par rapport...
Plus dans l'esprit de la Constitution originelle de la Ve République. Plus dans... Je vais dire une erreur, mais c'est plus dans le parlementarisme rationalisé de Michel Debré se trouverait un peu restauré. Ce serait... Puisqu'en fait, cette dernière mandature, dernier quinquennat, a été celui d'un effacement, à la fois de l'effacement du Parlement, mais j'ai l'impression, ce que disait Pierre Mazeaud, d'une augmentation par rapport à, en face de l'effacement du débat parlementaire, d'une augmentation des haines politiques et politiciennes sans précédent. Donc il y a intérêt à avoir un Parlement qui intègre, bon, c'est une vieille idée, mais au-delà de sa fonction, de ce qui relève de ses pouvoirs constitutionnels, qui intègre le plus possible les différentes familles politiques, même si vous avez un député d'extrême-gauche, ce serait bon que tout le monde soit au Parlement. Ce qui fait d'ailleurs que le Parlement est un Parlement relativement européen, est un Parlement où il n'y a jamais d'incident majeur, qui est très apaisé et qui travaille beaucoup, c'est que vous avez absolument toutes les familles politiques possibles et imaginables du continent.
C'est la représentation la plus fidèle des différentes sensibilités dans chaque pays européen.
Et ça, c'est une nécessité, même quand on déteste profondément les idées du type en face, c'est quand même quelque chose à avoir en tête, parce que on ne fait pas une démocratie solide sans intégrer ses marges.
Sans un socle commun qui fait sens et dans lequel tout le monde se reconnaît. D'ailleurs, c'est ce que vous disiez l'année dernière, je vous ai lu plusieurs fois, vous aviez écrit un article qui s'appelait « Une longue décennie de crise de régime ». Vous expliquiez que l'élection présidentielle se déroulait dans avec en toile de fond une société fracturée et des institutions politiques dans lesquelles un nombre croissant de Français ne se reconnaissent plus. Or, force est de constater que cette question institutionnelle, la crise politique, a été très peu présente dans la campagne présidentielle et n'est pas encore aujourd'hui un enjeu, si ce n'est effectivement les promesses renouvelées sur l'introduction de la proportionnelle, mais qui ne sont pour l'instant que de promesses.
Il y a deux aspects, c'est-à-dire le fait que les institutions ne permettent pas d'intégrer par le mode de scrutin tel qu'il est, et l'esprit du débat public qui est un esprit d'ostracisation et de brutalisation constante, en fait, de nos rapports politiques, alors que on est dans la même société et que, comme je disais, même si on déteste les idées dessus en face, mieux vaut les intégrer et permettre de les mouliner, de les polir par leur présence dans les institutions, que de les laisser s'aiguiser comme des longs couteaux à l'extérieur du système démocratique. Et donc il y a un intérêt réel à repenser tout ça, parce que l'appauvrissement du débat parlementaire, comme je disais, va de pair avec une violence croissante sur les plateaux télé. C'est aussi aujourd'hui, quand on veut faire une déclaration politique,
on fait un tweet ou on va sur un plateau d'une chaîne d'infos. Plus au Parlement que ça se passe, clairement.
Ça n'est plus au Parlement que ça se passe. Alors je dis pas mais c'est vrai que quand on avait un système qui consistait à faire un courrier des lecteurs, puis à obtenir une brève d'un journaliste, puis au bout de trois brèves, à obtenir un article, puis une séquence radio au bout de trois articles, le temps d'infusion du débat dans la société, c'était plus long, peut-être, mais peut-être que ça permettait aussi de pas avoir ces espèces de crises polémiques permanentes, ces invectives, et puis ces catégorisations de l'adversaire qui deviennent extrêmement problématiques du point de vue démocratique.
Et qui contribue d'ailleurs à la fracturation des groupes sociaux et au fait qu'il n'y a plus de débat de fond, on n'est que dans les invectives, les polémiques en succession et en fil continu.
Voilà, oui, c'est un vrai problème pour la démocratie aujourd'hui en France.
Eh bien, merci beaucoup Gaël Broussier. Je rappelle que vous êtes politologue, chroniqueur, auteur d'articles et d'ouvrages. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation.
C'est moi.
Puis c'est la fin de notre émission, mais elle était passionnante et j'espère que les auditeurs auront profité de la qualité de nos deux invités, Benjamin Morel et vous-même. À très bientôt.
À bientôt.
Et si on en parlait ? du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.